élever ton nom parce que tu es notre refuge, Seigneur. À travers les intempéries de la vie, à travers les difficultés de la vie, vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? Vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner pour trouver la paix, pour trouver le repos et l'espoir, Seigneur? Père, je veux te demander ce matin, à travers la lecture des Écritures, à travers l'exposition des Écritures, Seigneur, cette prédication, viens parler à nos cœurs par ton esprit. Aide-nous à aller puiser dans ce psaume l'expérience que David vivait avec toi dans la prière. Aide-nous à aller puiser dans ce psaume ces vérités si précieuses, Seigneur, pour nos âmes au quotidien. À tous les jours, lorsqu'on part pour le travail, lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'il y a des joies et il y a des peines, Seigneur. Viens nous donner ces précieuses vérités pour que nous apprenions à trouver en toi, Seigneur, notre refuge. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Tournez avec nous dans le psaume 16, on va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre Psaume, au chapitre 16, versets 1 à 11, dans l'édition, nouvelle édition de Genève. Alors, Psaume 16, versets 1 à 11. Récompense et certitude du juste. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne délivres pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite.
Merci, Julie. Alors, le psaume 16 commence avec de l'inquiétude. C'est quand même assez intense. David crie à Dieu, puis dit, « Je cherche en toi mon refuge. » Il veut se mettre à l'abri de quelque chose. Il veut aller se réfugier. Puis il va se terminer dans la joie, mais permettez-moi de juste rentrer un peu dans ce sentiment-là que David est en train de vivre. Un sentiment d'inquiétude. Il y a une lourdeur au début. David veut aller se réfugier, il veut aller se mettre à l'abri. Fait que permettez-moi qu'on rentre un petit peu là-dedans ensemble ce matin, puis après ça, on va aller vers l'espoir qu'il y a dans le psaume. De quoi est-ce que David veut se réfugier? De quoi est-ce qu'il veut se mettre à l'abri? On va le voir un peu plus loin, mais c'est assez existentiel, ces questions. Parce que d'une certaine manière, tout ce qu'il y a de bon dans la vie, absolument tout ce qu'il y a de bon dans la vie, va passer. La santé, vous avez beau à 40 quelques années commencer à faire du jogging ou vous mettre en forme, vous savez que les années sont en train de s'écouler. La santé va passer. Tu peux être la personne avec la meilleure hygiène de vie au monde. Ta santé va passer un jour. C'est vrai. C'est vrai. La mémoire, il y a 40 quelques années, on dirait que le disque dur est plein des fois, puis je voudrais juste faire comme reset, ramener la mémoire. Le travail? Tu as un bon emploi? Est-ce que tu vas l'avoir encore demain? Peut-être que oui, peut-être tout va bien aller, mais la réalité, c'est que c'est possible que tu le perdes. Les amitiés? C'est un mystère, les amitiés, hein? On s'investit, puis tout va bien, puis à un moment donné, oups, on dirait qu'il y a quelque chose comme qui se perd, puis là, tu te dis, comment ça se fait? On était tellement proches, puis ça aussi, ça peut partir. On va enterrer un jour nos parents. Peut-être, malheureusement, qu'on va enterrer certains de nos enfants. On se marie, cherche le bonheur dans une relation amoureuse, puis un jour, je vais enterrer mon épouse ou mon épouse va m'enterrer. C'est vrai? Tout passe. Absolument tout passe. Tout ce que j'aime, qui est précieux, un jour va disparaître. C'est la triste réalité. Et on dirait que cette réalité-là fait que y a comme une espèce d'angoisse, d'inquiétude sous-jacente à la vie. C'est toujours là. Tu sais que le temps est en train d'avancer et tu vis un beau moment puis tu dis, je sais pas combien de temps il va durer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprécier le moment présent parce que, waouh, c'est super. Bénis Dieu pour le moment présent puis quand l'épreuve viendra, tu béniras Dieu aussi parce qu'elle va venir aussi l'épreuve. Mais donc, il y a comme cette espèce d'angoisse latente qui est là, cette inquiétude de savoir que les bonnes choses, un jour, vont passer. Time is ticking, le temps est en train d'avancer. C'est la réalité. Et à cause de cela, on cherche à aller se réfugier. On a tous nos refuges, des endroits où on cherche à aller se mettre à l'abri. Et ce psaume-là, d'une manière existentielle, sur les questions les plus importantes de la vie, parle d'un refuge par excellence. Alors voici comment j'ai résumé l'exposé de ce matin. Vous allez voir qu'il y a de l'espoir après cette belle introduction stimulante. Ce matin, on va voir ensemble que celui qui trouve son refuge en Jésus-Christ seul choisit un bonheur incomparable et éternel. Celui qui trouve son refuge en Jésus-Christ seul choisit un bonheur incomparable et éternel. Commençons par parler de nos refuges, ces endroits où on va se réfugier. Et prenons pour commencer David. Alors David, au verset 1, dit, hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » J'aime bien comment la traduction de la Bible du Sommeur rend ça. Moi, je vous encourage à avoir plusieurs traductions. Hein. Quand vous commencez à méditer sur un passage, si vous passez plus qu'une journée sur un passage, vous devez changer de traduction la journée suivante, d'accord? Juste pour aller chercher la richesse des fois. Alors, dans la Bible du Sommeur, c'est traduit comme ceci. Cantique de David, « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, et tout mon bonheur est en toi. » Tout mon bonheur est en toi. Voyez-vous, David, à travers tout le début du psaume, va mettre l'accent sur un choix personnel qu'il a fait. David a fait un choix conscient. Il va comparer le choix que lui a fait au choix que les autres ont fait. Il va regarder ceux qui ont fait le même choix que lui parmi les amis, parmi la foule qui est autour de lui, parmi les gens du pays. David a fait un choix conscient, c'est celui de chercher son refuge en Dieu. Et il prend même le temps d'aller dans la prière pour le déclarer. Les psaumes, ce sont des prières. Ce sont des prières qui ont été écrites pour instruire le peuple, pour célébrer l'Éternel, mais enseigner le peuple sur la prière. Et donc, David est en train de dire, regardez, voici comment moi je prie. Fait que déjà, je vous pose la question, est-ce que vous avez cette habitude-là? Quand vous vous levez le matin, quand vous vous réveillez le matin, quand vous vous couchez le soir, de prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il va avoir des bons moments, il va peut-être avoir des épreuves, je sais pas, mais je veux le déclarer, je veux te le déclarer à toi. Aujourd'hui, c'est toi mon refuge, Seigneur. Aujourd'hui, mon espoir est en toi, pas dans mes forces, pas dans le secours que les hommes peuvent me donner, pas dans les circonstances de la journée, mais en toi, Seigneur. Je m'en vais travailler, il y a des situations à la maison, avec les enfants, dans ma santé, dans mon avenir, il y a des situations qui sont là. Est-ce que vous prenez déjà le temps de faire comme David, en vous réveillant le matin, en vous couchant le soir, de dire, Seigneur, c'est en toi que je cherche mon refuge? Est-ce que vous prenez le temps simplement de faire cette prière-là? David ressent le besoin d'aller se réfugier en Dieu. Puis on va voir un petit peu plus loin, il veut se mettre à l'abri de quoi? Des fois dans les psaumes, David nous parle de ses adversaires, c'était un roi, il y avait des joutes politiques, il y avait même des guerres, il y avait des attentats contre sa vie. Donc il y a toutes sortes de circonstances. Un peu plus loin, on va voir de quoi il est question ici. Mais David sentait le besoin d'aller se réfugier et je pense que ce psaume-là nous enseigne que tous les êtres humains, on a des refuges. On a des endroits où on va se réfugier. On se donne des endroits où on va aller se mettre à l'abri des intempéries de la vie. Puis l'être humain a toujours été comme ça. Dans certaines cultures, on appelait ça des idoles. On appelait ça des dieux. Que l'être humain se créait des petites statuettes à l'image de Dieu. Et c'est de ça dont il est question ici, si vous regardez au verset 4. On multiplie les idoles, on multiplie les divinités. On court après les dieux étrangers. Mais David a fait un choix. Lui, je ne répands pas leur libation de sang, des offrandes. Des fois, on offrait des breuvages à Dieu, des breuvages de sang, littéralement. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Voyez-vous, on multiplie les idoles. Pourquoi est-ce qu'on multiplie les idoles? Bien, c'est parce que chacun de ces dieux-là, qui n'était pas vu comme le Dieu qui a créé l'univers et qui gouverne les cieux et la terre, était créé, façonné pour être chacun d'entre eux de petits refuges. Difficulté à avoir des enfants. On va avoir une divinité pour la fertilité. L'agriculture va pas bien. On va être certain que la météo va être de notre côté, qu'on va avoir des bonnes récoltes. Une divinité pour ça. Une divinité pour l'amour, une divinité pour la guerre. Et chacun de ces dieux-là, chacun de ces idoles-là devenait des refuges. On courait après ces idoles pour se réfugier, pour se mettre à l'abri des peurs, des craintes, des intempéries de la vie. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, les apôtres nous aident à comprendre qu'en réalité, j'ai pas besoin de me forger des statuettes en bois, en argile, en or, en bronze, les avoir sur une tablette dans ma maison avec un autel où je vais aller offrir de l'encens. En réalité, plein de choses peuvent devenir des refuges pour moi, des idoles pour moi. Souvent des choses qui, a priori, sont très, très bonnes. Souvent des choses que Dieu a créées qui sont bonnes, mais qui deviennent ultimement un refuge pour moi. L'alcool. Le vin, c'est Dieu qui l'a créé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai besoin, par exemple, d'aller me réfugier dans la boisson. J'ai besoin d'aller m'apaiser, j'ai besoin d'aller me calmer pour calmer ses angoisses. Je prends cet exemple-là parce que l'impact est assez littéral, hein? J'ai besoin d'aller fumer mon petit joint pour fuir les angoisses de la vie. Fuir les angoisses. L'amour. J'ai besoin d'assouvir ce sens à l'existence. Je vais le trouver dans une personne. Je vais chercher l'amour. Puis quand je vais la trouver, enfin, ma vie va prendre son sens. Les enfants, j'ai juste besoin que Dieu me donne des enfants. Si je peux avoir des enfants, je vais les aimer, je vais les chérir. Mais est-ce que ça se peut aussi que ça devienne des idoles dans ma vie? Ou cherche à m'accomplir premièrement à travers eux. Dans ma carrière, j'ai juste besoin de ça. Ma santé, j'ai besoin de ça. Où est-ce que tu tournes cette semaine? Ça me surprendrait que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas vécu un moment de stress, d'anxiété. On est à l'époque par excellence de l'anxiété. Quand tu as vécu de l'anxiété cette semaine? C'est une question pour toi, là. Personnellement. Quand tu as vécu de l'anxiété cette semaine, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait? Palette de chocolat? Netflix? Une petite bière? Je ne sais pas, c'est quoi que tu as fait? Sexualité, oh, pornographie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu t'es senti stressé? Parti faire du sport, peut-être, je sais pas. Il y a même des choses qui sont super bonnes, hein? Mais qui deviennent une espèce de fixe. C'est mon fixe quand je vis de l'anxiété. Puis l'anxiété vient de quoi? Des appréhensions par rapport aux souffrances de la vie, les intempéries de la vie, qui font partie de la vie. Il y a une nuance qui... Je pourrais pas tout l'expliquer, ça serait un peu compliqué de rentrer dans l'hébreu, mais quand je vous dis que c'est intéressant d'aller voir d'autres traductions de la Bible, c'est vraiment intéressant des fois d'aller voir ces traductions-là. Le verset 4 est très difficile à traduire, d'accord? Tous les traducteurs de la Bible reconnaissent qu'il y a vraiment des difficultés dans la traduction de ce verset-là. La majorité des versions anglaises ont une nuance très importante qui est rendue dans la sommeur. Et là, vous allez dire, mais c'est vraiment différent. Effectivement, c'est assez différent. Donc, dans la sommeur, verset 4, on lit ceci. « Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. » Méchante différence, hein? « Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. » Ça serait un peu compliqué à rentrer dans l'hébreu. Le mot « Dieu » n'est pas là dans l'hébreu. Il faut le déduire. C'est « poursuivre autre que Dieu » qui est mentionné avant. Ça serait un peu long d'aller là. Mais si cette traduction-là est juste, bien on trouve exactement les mêmes termes qu'on a dans Genèse. Lorsque Dieu annonce à Ève, après que Adam et Ève aient péché, que l'enfantement va se faire avec beaucoup de douleur. C'est un peu la même idée, avec beaucoup de tourment. Et donc, ce que David serait en train d'exprimer ici, c'est que non seulement on se crée toutes sortes d'idoles, toutes sortes de dieux, pour aller se réfugier au lieu de se réfugier en Dieu, mais en plus de ça, poursuivre ces autres divinités-là apporte beaucoup plus de soucis que de bonheur. Ça apporte beaucoup plus de souffrance. Et ça tombe sous le sens, parce que si je demande à mon épouse, une femme extraordinaire, une perle, de me donner ce que Dieu seul peut me donner, je pense que je suis en train de la mettre dans le trouble, je suis en train de me mettre dans le trouble. Si je suis en train d'attendre de la vie qu'elle me donne une santé sans souffrance, au lieu de trouver mon bonheur en Dieu, et que je vais avoir une santé perpétuelle, je suis en train de demander à la vie quelque chose qu'elle ne va pas me donner, parce que la santé va s'en aller tôt ou tard. Et donc, ce que David serait en train d'exprimer ici, c'est que lorsqu'on se tourne vers d'autres refuges que Dieu, ça va générer beaucoup plus de souffrance en nous qu'autre chose. Ça va générer beaucoup plus de souffrance. Fait que je reviens avec ma question de tantôt. Cette semaine, quand tu étais stressé, quand tu étais anxieux, quand tu étais anxieuse, quand ça allait mal au travail, relations difficiles, déception, une inquiétude, mauvaise nouvelle, tu regardes le compte de banque, il y a une surprise, tu n'avais pas figuré quelque chose, la voiture vient de tomber en panne, une réparation non prévue. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Et je suis pas en train de souligner ça ce matin pour vous faire vivre un guilt trip, vous comprenez? Dieu nous interdit de nous forger d'autres dieux et d'adorer des idoles, même si ce sont des bonnes choses que Dieu a créées, de les élever à la place de Dieu. Dieu nous interdit de faire ça, premièrement parce que c'est une offense à Dieu, mais deuxièmement parce qu'il n'y a pas de bonheur à trouver là. Il n'y a pas de bonheur à trouver là. Je ne peux pas demander à ce que Dieu a créé de me donner la sécurité que Dieu seul peut me donner. Je ne peux pas lui demander ça. Je peux juste la demander à Dieu. Alors, quelles sont tes idoles? Quels sont tes refuges où tu vas quand la vie te déçoit, quand la vie te contrarie, quand la vie t'inquiète? Quels sont tes refuges à toi? Peut-être que ça a l'air très sain même de l'extérieur. Tu es quelqu'un de discipliné. Puis tes refuges sont dans tes disciplines, dans tes performances, dans l'ordre qu'il y a dans ta vie. Puis à tenir tout ça ensemble, tu as une sécurité, ou du moins tu espères que tu as une sécurité. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi. Maintenant, regardez bien. Le remède de David est que Dieu est beaucoup plus qu'un refuge pour lui. Dieu est l'objet de son plus grand amour. Et ça va être une nuance super importante, d'accord? Quand on devient chrétien, une des premières choses qu'on fait, on fait quoi? On se confie en Dieu. C'est vrai? Une des premières affaires que tu fais quand tu deviens chrétien, c'est que tu dis, « OK, Seigneur, je reconnais que je n'y arriverai pas moi-même, j'ai besoin de toi, donc je me tourne vers toi. » Dieu devient ton refuge, c'est automatique. Maintenant, je crois que souvent, lorsqu'on demeure malheureux, c'est qu'on voit Dieu essentiellement comme notre refuge. Dieu est surtout un refuge. Et le remède de David, c'est que Dieu n'est pas seulement son refuge. Dieu est l'objet de son bonheur le plus grand. Regardez avec moi les versets 1 et 2. Cantique de David, « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, et tout mon bonheur est en toi. » C'est encore une fois la Bible du Sommeur. « Tu es mon souverain bien, va dire la Louis II. » David a décidé que la source de son bonheur, allait être Dieu. C'est pas juste que quand ça va mal, il va se réfugier en Dieu. C'est que lorsqu'il s'arrête puis il dit où est-ce que je vais trouver ma joie aujourd'hui? Où est-ce que je vais trouver mon bonheur? Qui va me donner un bonheur imparable qui dépend pas des intempéries de la vie? C'est en Dieu seul. Et donc David va jusqu'à déclarer en toi seul est mon bonheur. C'est énorme. C'est énorme. Puis David n'est pas en train de dire que l'amour, c'est pas bon, avoir des enfants, c'est pas bon, avoir un bon travail, c'est pas bon, jardiner dans ma cour ou prendre des vacances puis partir, aller à la plage, c'est pas bon. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais en même temps, il fait à la David, hein? Vous vous rappelez, lorsqu'il confesse ses péchés, il dit « Contre toi seul, j'ai péché. » Mais il dit « En toi seul est mon bonheur. » Et lorsqu'il est en train de dire ça, il est en train de dire « Il n'y a rien qui se compare au bonheur que je trouve en toi. » Il n'y a absolument rien qui se compare au bonheur que je trouve en toi. Il n'y a rien de comparable au bonheur que je trouve en toi. Il va dire au verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Il a besoin de conseils. Il a besoin d'être rassuré. Dans la nuit, il est réveillé par des soucis, des tracas, il y a des inquiétudes. Où est-ce qu'il cherche son réconfort? À repasser sans cesse les scénarios catastrophiques. Moi, la nuit, là, je suis tellement nono, là, ça n'a aucun bon sens. Si je me réveille la nuit et j'ai des inquiétudes, honnêtement, je suis vraiment stupide. Je peux partir. Puis là, je me rendors plus tard, je me réveille le matin et je dis, « Qui c'est qui m'a pris? » C'était pas si noir que ça. Êtes-vous comme ça? C'était pas si pire que ça. David, lorsqu'il vivait ces moments-là dans la nuit, prenait Dieu pour conseiller. La nuit même, « Tu es mon conseiller. » Alors même que je suis dans ces moments de trouble et d'inquiétude, lorsque je m'avance, c'est toi qui es ma force. Au verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Son appui à sa droite pour aller faire face aux obstacles de la vie. » C'est l'Éternel. Il a conscience que l'Éternel se tient à sa droite dans le combat face à tous les obstacles de la vie. Voyez-vous, David a fait un choix. Dieu n'allait pas seulement être son refuge, il allait être son plus grand bonheur. Puis c'est clair dans le psaume 116 que c'est un choix que David a fait. Parce qu'il va comparer ce choix-là avec le choix que les autres ont fait. Puis il regarde autour de lui, puis il voit des gens qui ont fait le même choix que lui. Il dit, « Je regarde parmi le peuple les saints, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui marchent avec Dieu. Je les aime, ils sont incroyables. » Puis je regarde les autres qui sont fous. Ils courent après toutes sortes de dieux, puis ils cherchent des refuges dans toutes sortes d'idoles, puis ça leur apporte un paquet de tourments. Alors, voyez-vous, il y a vraiment un acte conscient, une décision consciente de la part de David. Alors, je reviens sur l'idée des idoles, d'accord? Il dit au verset 4, « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom même sur mes lèvres. » Et pendant que j'étais en train d'étudier le passage cette semaine, puis je méditais, j'ai pensé à Romains 1. Dans Romains 1, l'apôtre Paul parle de la création, puis il parle des gens qui voient toute la création de Dieu, qui est extraordinaire, puis il dit, « À un certain moment donné, l'humanité a oublié le Créateur qui était derrière tout ce qu'il y a d'extraordinaire, puis s'est mis à adorer les créatures que Dieu a créées. Il les a élevées au-dessus de Dieu lui-même, dans son cœur, c'est ce qu'il a fait. On lit dans Romains 1, 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Quand Jésus vient, puis il dit, « Si quelqu'un aime son frère, sa mère, son père, ses enfants plus que moi, aime sa vie plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. » D'une part, Christ nous dit ça parce que c'est vrai. C'est vrai que personne ne devrait être comparable à Dieu dans nos cœurs. Mais d'autre part, Jésus dit, « Venez à moi, prenez mon joug sur vos épaules, parce qu'il est doux et léger, je suis un bon maître. » Et lorsque vous décidez de me servir moi, de m'adorer moi, plutôt que de servir vos idoles, c'est là que se trouve la paix pour vous. C'est là que se trouve le repos pour vous. Comment on identifie les idoles dans nos vies? Ce sont les choses, comme je l'ai dit, où On fuit quand ça va mal. Quand on ne se sent pas bien en dedans, je me tourne où? Et ça se peut que ce soit quelque chose de super bien, de super bon, que Dieu a créé, qui est sain en soi. Mais mon rapport avec cette personne ou avec cette chose ou avec ce désir, lui, est malsain. Une autre manière d'identifier les idoles, c'est comment tu vas réagir si on te l'enlève? Comment tu vas réagir si tu le perds? Tu perds ton emploi? Tu perds la santé? Est-ce que tu vas réagir comme Job? Tu vas bénir Dieu? Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni? Ou est-ce que Dieu va se servir de cette épreuve-là dans ta vie pour révéler qu'il y a un autre Dieu dans ta vie que l'Éternel? Que tu sers en fait un autre Dieu parce que quelqu'un d'autre que Dieu est ton refuge? Dans le test absolument terrible que Dieu a fait passer à Abraham, est-ce que vous connaissez l'histoire d'Abraham avec Isaac? Abraham attend pendant des années pour avoir un fils, puis enfin il a un fils, puis lorsque son fils arrive en âge d'être un homme, Dieu fait passer un test à Abraham, un test terrible. Quelqu'un qui ne comprend pas l'Évangile, je pense, ne peut pas faire autrement qu'être scandalisé par ce test-là à notre époque. Il lui dit, tu vas aller offrir une offrande, tu vas venir m'offrir une offrande sur la montagne, puis cette offrande, ça va être ton fils. Dieu demande de tuer un être humain. C'est quoi ça? Il n'est pas comme ça. Puis David avance par la foi, puis se confie en Dieu. Puis David est prêt à... Abraham est prêt à faire ça. Je m'excuse. Abraham est prêt à faire ça. Il est prêt à obéir, puis aller jusqu'au bout. Puis Dieu l'arrête, évidemment, puis il dit, j'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur. Une des manières les plus claires, les plus nettes pour identifier des idoles dans nos vies, c'est quand Dieu les enlève. Quand Dieu enlève quelque chose, c'est normal d'avoir de la tristesse, c'est normal d'être brisé des fois par des épreuves. Dieu veut nous transformer à travers ça. Mais il arrive par contre que Dieu révèle en réalité des idoles dans nos vies. Lorsque Dieu fait ça, ça peut être la santé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et Dieu le fait pas parce que c'est un mégalomane qui veut toute la gloire pour lui, puis qui est imbu de lui-même. Puis c'est parce qu'il est le plus grand bien. Imagine un instant que Dieu te laisse adorer ta santé. Est-ce qu'il te rend service? Je ne sais pas quel âge tu as, mais elle va partir. Ou si Dieu disait, non, mais regarde, adore ta femme va être la source de ton bonheur. Ben d'abord, je te dirais, marie-toi pas, parce que ça ne marche pas vraiment. Mais, mettons que Dieu dirait ça, est-ce qu'il te rend vraiment service? Tes enfants, ta carrière, est-ce que Dieu te rend service? La seule manière que Dieu peut être vraiment bon avec toi, c'est s'il te dit, ton bonheur, tu vas le trouver en moi seul. Parce que moi seul, je vais demeurer et je vais être présent. Je vais rester avec toi. Maintenant, revenons à la question existentielle de David. Qu'est-ce qui l'amène au début du psaume à crier à Dieu puis à dire, protège-moi, Seigneur? En toi seul, je cherche mon refuge. C'est quoi la question qui est là? Est-ce qu'il y a des adversaires? C'est pas clair dans le texte. Est-ce qu'il y a une épreuve? Il vient de perdre sa job? Non, il est encore roi. Qu'est-ce qui se passe avec David? Regardez avec moi les versets 9 à 11. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans ce psaume-là. Le psaume commence avec un cri d'alarme où il cherche son refuge en Dieu. Puis plus on avance dans le psaume, plus David est en train de se craquer puis est en train de dire, regarde, moi j'ai cherché tout mon bonheur en toi, puis tu me rends heureux, puis mon cœur est dans la joie. Puis à la fin, il est comme complètement exalté, puis il dit, en plus de ça, là, même pour l'éternité, je vais être heureux. Tu permettras pas que mon corps voie la corruption. Mon âme va être avec toi pour l'éternité. De quoi il parle? Il parle de la mort. Il parle de la mort. Puis il y a un espoir même à travers la mort. Si j'avais beaucoup de temps, on irait voir d'autres passages. Ailleurs, David, qui était aussi prophète, avait reçu de la part de Samuel une parole lui annonçant qu'il allait mourir, mais qu'un jour sa descendance viendrait sur le trône et régnerait éternellement. Puis dans le passage, le prophète lui dit carrément, « Ton corps va se corrompre. » David savait qu'il allait mourir. De quoi il parle? De quoi il est en train de parler ici? Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, les apôtres viennent nous éclairer sur ce passage-là. David plaçait sa foi en Dieu. David plaçait sa foi dans les promesses que l'Éternel lui avait données. Et puis, il avait espoir qu'il passerait l'éternité avec Dieu. Puis pourtant, il est mort, puis il a été enterré. Comment est-ce qu'il pouvait avoir de l'assurance que Dieu allait le garder, même à travers la mort, qui est finalement la plus grande des angoisses, la plus grande des inquiétudes? C'est ça qui passe. C'est le temps qui passe et qui nous rapproche de la mort à tous les jours. À chaque instant, je me rapproche un peu plus de la mort. Elle sera peut-être dans 50 ans, elle sera peut-être dans 75 ans. Ça sera peut-être dans 3 jours. Mais c'est ça la plus grande angoisse. Puis David est dans l'allégresse parce qu'il a cette espérance. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on lit dans le livre des Actes des apôtres. Je l'ai mentionné à quelques reprises dans les dernières semaines, mais quand les apôtres prêchaient, ils avaient juste l'Ancien Testament au départ. C'était leur Bible, c'était juste l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est pas rédigé. Et donc, il se réfère à des passages prophétiques dans l'Ancien Testament. Et on lit dans Actes 2, 25 à 29, un long passage, je vais le lire, « Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Puis Pierre, c'est Pierre qui est en train de parler. Il continue en disant, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Donc Pierre dit, « David, ne sachant pas, ne comprenant pas la portée de cette révélation que Dieu lui a donnée, a déclaré que son corps, que son âme ne verrait pas la corruption, mais il annonçait que celui qui serait sa descendance, le fils de David, Jésus, le Christ, le Messie, lui ne resterait pas dans le tombeau. » Et donc Pierre dit, écoutez les amis, j'aime beaucoup David, j'ai énormément de respect pour lui, mais laissez-moi quand même dire qu'on a son sépulcre, là, fait que de quoi il parle ici? Il dit, David savait par la foi, avait cette révélation qu'un jour le Christ viendrait et que lui ne resterait pas dans le tombeau, mais ressusciterait d'entre les morts. Et les apôtres se servaient régulièrement de ce passage-là, y voyant une prophétie qui annonçait la résurrection de Jésus-Christ. On lit dans Actes 13, 35, c'est Paul qui parle ici. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Les apôtres avaient compris qu'il s'agissait d'une parole prophétique dans la bouche de David. Maintenant, à quoi est-ce que c'est pertinent pour nous? Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et donc, par la foi, David faisait confiance à Dieu, ne connaissant pas la portée de cette prophétie, mais Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Son corps n'a pas vu la corruption. Et les Saintes Écritures nous disent que sa résurrection, c'est la promesse de notre résurrection. Sa résurrection d'entre les morts, c'est l'annonce de notre résurrection à venir à nous aussi. Alors voyez-vous cette richesse extraordinaire que David trouvait en Dieu, en disant à Dieu, « Je cherche en toi mon refuge, parce que tout le reste va décevoir. » Je les regarde les autres qui courent après des idoles, puis qui se confient dans toutes sortes d'idoles, dans leur carrière, dans la nature, dans la santé, dans l'amour, dans la sexualité. Je les regarde aller, puis ça leur apporte un paquet de tourments. Ça leur apporte pas le bonheur, parce que ces choses-là vont toutes passer. Mais moi, j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi l'éternel. Et ça, ça ne peut pas m'être enlevé. Même à travers la mort, ça ne pourra pas m'être enlevé. Même à travers la mort. Et c'est pour ça que je dis, celui qui trouve son refuge en Jésus-Christ seul, en Jésus-Christ seul, va trouver le bonheur. Maintenant et pour l'éternité. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. À travers cette série-là, Carnet de prière, ce qu'on a cherché à faire, c'est grandir ensemble dans notre confiance en Dieu, mais aussi dans notre réflexe d'aller vers Dieu, d'aller se confier en lui pour l'adorer, pour le célébrer, d'avoir un réflexe quand ça va mal, quand il y a des difficultés, quand je me réveille le matin, quand je me couche le soir, d'entrer en moi-même puis d'aller parler à Dieu, lui confier mes joies de la journée, mes peines, mes inquiétudes. Et Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, mérite 100% de l'allégeance de mon cœur. Il n'y a rien de comparable à ce que Christ me donne. Amen. Il n'y a absolument rien de comparable. Cherche-le pas dans le mariage. Cherche-le pas dans la sexualité. Cherche-le pas dans une carrière. Cherche-le pas dans ta santé. Abandonne ces idoles. Tu dis, non, moi, j'ai pas d'idole dans ma vie. Tente pas l'Éternel qu'il vienne te retirer quelque chose pour que tu découvres que c'est une idole. Donc, pendant que tu l'as encore, prends-le puis dépose-le à l'autel. Puis dis, Seigneur, c'est à toi. C'est une grâce que tu m'as donnée. Tu peux la reprendre quand tu veux, elle est à toi. Tes enfants, ton épouse, ta santé, ta carrière, ta sécurité, prends-les. Prends-les maintenant. Puis si tu sais que c'est là que tu vas te réfugier au lieu de te réfugier en Dieu, prends-les maintenant puis dépose-les à l'autel. Puis dis, Seigneur, c'est à toi, ça. Ce sont des grâces que tu donnes, mais ce n'est pas là que se trouve le véritable bonheur. Mon bonheur se trouve en Jésus-Christ, parce que ces choses-là vont passer. Mais cette paix, ce repos que je peux aller trouver en Dieu. Et cette semaine, il y avait des moments où j'étais anxieux, j'étais triste, j'ai eu quelques moments où j'étais profondément malheureux. Puis moi, j'étais en train de préparer ce message-là. Puis je disais, Seigneur, mais t'es pas mon refuge, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me révélait des idoles dans ma vie. Des idoles dans ma vie, dont je dépends tellement pour être heureux. J'ai besoin de ça pour me sentir heureux. Puis le Seigneur me disait, Yannick, viens les déposer. Viens les déposer sur l'autel, viens les abandonner. Ça va juste apporter du tourment d'espérer que ton vrai bonheur se trouve là. Bénis Dieu quand c'est là. Bénis Dieu pour le travail, bénis Dieu pour la santé, pour tes enfants, pour l'amour que tu peux avoir, les amitiés, pour l'opportunité de servir. Bénis Dieu pour ça. Oh, mais par la grâce de Dieu, que ce ne soit pas ton refuge, que ce ne soit pas ton bonheur. Le vrai refuge, le seul bonheur se trouve en Jésus-Christ seul. Parce qu'au fur et à mesure que la vie va avancer, que la santé va s'en aller, que tu vas enterrer des proches, que des choses vont disparaître dans ta vie, tu vas te rapprocher de plus en plus de cette gloire éternelle. On va rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Des délices éternels devant ta face, ô Dieu. Puis on va réaliser, lorsqu'on va voir Dieu face à face, que toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les belles choses qu'il nous a données dans la vie, c'est simplement pour nous aider à être reconnaissants pour qui Dieu est. Et donc, lorsque j'ai l'amitié dans ma vie, c'est là pour me dire, regarde comment Dieu est ton ami. Parce qu'il t'a accordé cette amitié. Lorsque j'ai la santé, regarde comment Dieu est bon. Et toutes ces choses qui sont extraordinaires, qui viennent et qui partent dans nos vies, sont là pour nous amener à nous tourner vers Dieu et ne pas en faire des idoles dans nos vies. Voulez-vous prier avec moi? Voulez-vous prier avec moi? On va remettre à Dieu ces idoles qui sont là et qu'on aurait tellement peur que Dieu nous enlève. Tellement peur. Alors que pourtant, on a tout en Jésus-Christ. Père éternel, nous venons devant toi dans la prière pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur Jésus, pour élever ton saint nom. Seigneur Jésus, tu as tout quitté. Tu n'as pas vu comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, d'être avec ton Père dans la gloire. Tu t'es humilié en venant vivre sur la terre parmi les hommes. Parmi ces créatures qui regardaient partout ailleurs au lieu de regarder à toi. Ils t'ont vu en voyant ta gloire, Seigneur, ils ont choisi de te crucifier parce qu'ils étaient en amour avec toutes sortes d'idoles, avec des choses que tu leur avais données, mais qui avaient pris toute la place dans leur vie, Seigneur. Mais toi, tu as persévéré, tu t'es rendu à la croix, tu es mort sur cette croix, Seigneur, pour nos péchés, pour toutes ces idoles que nous avons dans nos vies. Tu es mort sur la croix, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ton corps n'a pas vu la corruption parce que le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Ton Père a agréé ton sacrifice. Combien tu es glorieux! Combien tu es majestueux. David, poussé par l'Esprit, annonçait ta résurrection, Seigneur. Parce que ta résurrection, c'est la promesse de notre résurrection. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'apporter, Seigneur, au pied de l'autel, ces refuges, ces idoles dans nos vies où nous allons nous réfugier au lieu de nous confier en toi. Ces bénédictions que tu nous as données, qu'on a tellement peur que tu nous enlèves. Pourtant, tu nous as promis que jamais tu ne te retirerais de nous. J'ai reçu ton esprit et ton esprit me dit que je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait me retirer de plus grand que toi, Seigneur? Rien du tout. Seigneur, vois ces idoles dans nos vies. Accorde-nous la grâce et la force de les abandonner, de te les déposer, de te les remettre, Seigneur, afin que toi seul sois notre refuge et qu'en toi, Seigneur, nous trouvions tout notre bonheur. Ce matin, on veut t'adorer, on veut te célébrer ensemble. Amen.